force du maréchal Khalifa Haftar en Libye, les saumons de libérer les membres de son équipage sous peine de graves conséquences. C'est la fin de ce bulletin. Merci de votre aimable.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans À votre avis, votre émission interactive sur VO Afrique. Nous émettons bien sûr depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons des violences faites aux femmes. Installez-vous confortablement, on se retrouve juste derrière ceci. Selon les Nations Unies, les violences contre les femmes et les filles et surtout les violences domestiques se sont accrues depuis l'apparition du COVID-19. La déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993. Aujourd'hui, estime l'ONU, la violence à l'égard des femmes et des filles constituent l'une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Elle demeure également l'une des moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entoure. La violence à l'égard des femmes s'entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence physique, sexuelle et psychologique. 71% de toutes les victimes de la traite des êtres humains dans le monde sont des femmes et des filles. Trois quarts d'entre elles sont exploitées sexuellement. Comment s'expliquent les violences faites aux femmes et quels moyens pour y mettre un terme? Et nous allons commencer par notre premier auditeur. Nous allons tout de suite du côté de Ouagadougou au Burkina Faso retrouver Charles Bazema qui nous a écrit sur Facebook. Charles, bonsoir.
Bonsoir à vous, Afrique.
Alors, vous dites dans votre commentaire sur Facebook que la femme a toujours été soumise à son mari, du moins ça en Afrique, et cela c'est pour ne pas déshonorer sa famille. Est-ce que cela donne droit à l'homme de manifester sur elle un certain type de violence?
Non, et je réponds sincèrement. Parce qu'en Afrique, la question, c'est que l'homme, la femme ne dit rien. J'ai du mal à voir une femme africaine aller poser quelque chose sur son mari parce que c'est le mari. Elle n'est pas bannie par sa famille. Et les deux, elle est vraiment vue dans la société, c'est-à-dire dans la communauté où elle est. Donc,
Alors, donc, c'est ce fait-là de ne pas vouloir subir la colère des proches, de la famille. C'est pour cela que la femme reste silencieuse, même lorsqu'elle subit des violences sexuelles, selon vous.
Oui. Bon, vous voyez, monsieur le journaliste, John. Et vous voyez, la violence sexuelle, là-bas, c'est un côté où on doit faire beaucoup de débats. Vous voyez, par exemple, je me base sur le cas du Burkina, effectivement, dans notre village. Vous voyez, la femme, quel que soit, même si elle est quittée au champ, elle est fatiguée, quel que soit, elle est. Si son mari a besoin d'elle, elle est obligée d'accepter. La femme a l'obligation d'accepter tout ce que dit son mari. Même si à quelque part, c'est d'abuser d'elle, mais dans le...
Voilà. Merci. Merci Charles Bazema. On a quelques soucis avec la communication. Et on va aller tout de suite du côté de N'Djamena au Tchad, retrouver là-bas Archiduc Théodore. Archiduc, bonsoir. Alors, nous parlons ce soir des violences faites aux femmes et vous nous avez laissé un message où vous dites que les violences faites aux femmes, très souvent, ne sont pas sanctionnées ou ceux qui commettent ces violences-là ne sont pas sanctionnés et parfois on n'en tient même pas compte. Les auteurs ou les complices ne sont même pas estés en justice.
Oui, je pense que les violences faites aux femmes sont en train de faire bonne parce que les auteurs et les complices ne sont pas punis comme il le faut. On reconnaît la force des sanctions de pas une condamnation. Lorsqu'une condamnation se fait faible, cela fait à ce que les auteurs n'ont pas pu se dire que même si jamais ils répètent la même chose, il n'y aura personne pour les traduire en une. Et en plus, on a notre tradition et des gens qui parfois disent que lorsque la femme est violentée, par exemple, par son mari, elle doit réagir dans la différence, je ne veux pas faire comprendre au monde entier combien de fois elle a souffert, elle ne peut pas rester son mari en Russie. Ce qui fait en ce que bon nombre de femmes souffrent, mais on ne sait pas est-ce qu'elles souffrent et ceux qui ne font souffrir ne sont pas réprimés comme il le faut.
Alors, ce qu'il faut donc faire selon vous, c'est accroître les sanctions et les renforcer. Et est-ce que ça va vraiment changer les choses?
Effectivement, aucune des sanctions, donc il faut encore une sensibilisation, des pages de communication très fortes pour faire comprendre que si elles subissent des violences, elles peuvent s'exprimer. Et bien les associations de femmes expliquent ce qu'elles ressentent, que ce soit leur mari, que ce soit leur copain, que ce soit leur père ou autre, afin que ces violences contre les femmes aient un taux de diminution de plus en plus bas.
Effectivement, le volet sensibilisation peut arranger les choses parce que dans la plupart des cas, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, les femmes ne signalent pas. Les femmes ne parlent pas et donc personne n'est au courant de leur souffrance. Et vous êtes en N'Djamena. Quelle est la situation là-bas et de manière générale au Tchad?
Oui, de manière générale, le Tchad fait partie du pays où les violences faites aux femmes sont de plus en plus élevées. Et généralement, quand on prend la situation d'Est du Tchad, par exemple, à Andaras, à Iriba, à Guérida, ce sont des régions où la plupart de ceux qui habitent là-bas font partie de la communauté musulmane. Et là où j'ai travaillé précisément sur les violences aux femmes, beaucoup affirment que quand leur mari est tabac, la communauté n'accepte pas de donner ce mari-là. Et ils font aussi d'arranger ça à l'amiable que d'aller en justice parce que, en tout cas, même si les hommes de tabac ne sont pas finalement soucis de leur mari, elles n'ont pas le droit d'aller dénoncer parce qu'elles ont peur de représailles.
Voilà. Il faudrait que les femmes parlent donc. Merci beaucoup, Archiduc Théodore, pour cette contribution. Merci beaucoup. Et vous étiez en N'Djamena au Tchad. Passez une bonne soirée.
Ok, merci.
Et nous allons tout de suite du côté de Djibouti retrouver Hassan Québec Omar. Hassan, bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs.
Nous parlons ce soir des violences faites aux femmes. Quelle est la situation à Djibouti et qu'est-ce que vous pensez de cette thématique?
La violence faite aux femmes existe à travers le monde et surtout elle est très récurrente à Djibouti et en fait dans la corne de l'Afrique, mais également dans son ensemble sur le continent africain. Alors lorsqu'on regarde proprement dit la violence faite aux femmes, ça existe mais elle est silencieuse. Les gens, les victimes surtout des femmes, ne revendiquent pas ou ne s'opposent pas à cette violence par crainte. Des rites religieux, soit par des problèmes qui sont liés à la tradition africaine.
Alors, mais qu'est-ce qui justement pousse les femmes à rester silencieuses? Vous avez parlé de la tradition africaine, mais est-ce qu'il y a autre chose au-delà de cela?
Mais on peut dire aussi, on peut les qualifier par amour, parce que le conjoint souvent violent, ils ont traversé des bons moments. Donc, les enfants qui sont à sa charge, également, il ne faut pas oublier la présence des enfants, mais il ne faut pas également oublier qu'il y a la tradition africaine. Également, il y a la marginalisation de la société, parce que lorsqu'une femme dénonce qu'elle a eu de violence dans son foyer, les gens les rejettent ou les marginalisent, et elle devient quelqu'un de victime dans la société. Donc, elle prend la proposition ou elle prend sur le point en parlant de son point, en fait, du point de vue de la population, elle s'arrête et s'abstient de dénoncer la violence.
Et quelle est la part des responsabilités des États dans cette situation? On a suivi tout à l'heure Archiduc du Tchad qui disait que parfois les lois ne sont pas assez strictes, assez sévères et même parfois pas appliquées.
En fait, il y a un manque de compétences, surtout dans les milieux, sociaux, mais également dans le gouvernement. Parce que le gouvernement ne prend pas en compte à cette violence faite aux femmes. Et c'est pourquoi il y a toujours des sensibilisations des organisations internationales qui sensibilisent les États à prendre des décisions adéquates. Et surtout, ce qui manque, c'est d'abord c'est la volonté politique, mais également des actes. On ne voit pas souvent des actes. Ce sont les actes qui manquent. Et ça pose problème. Et c'est ce qui entraîne aussi le silence des femmes. Parce qu'elles se disent, si je les poursuis aujourd'hui, mon mari, ou quelqu'un qui est violent, qui est, disons, un homme, personne ne pourra, en fait, acter mes poursuites. Donc, c'est pourquoi ils prennent le silence. Et on a besoin qu'il y ait en fait des institutions comme l'Union africaine de proposer des lois dans ce sens pour essayer d'endiguer ce problème qui existe partout en Afrique.
Merci beaucoup pour cette riche contribution à Hassan Omar. Vous nous appeliez de Djibouti et très bonne soirée à vous.
Je vous remercie.
À votre avis sur VOA Afrique.
Vous êtes toujours dans votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique. Nous parlons ce soir des violences faites aux femmes et nous allons tout de suite à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Retrouvez là-bas Eric Gauze. Eric, vous nous avez écrit sur Facebook et votre point de vue, vous dites que les violences faites aux femmes sont dues à l'insoumission des femmes vis-à-vis de leurs époux et à l'incompréhension du mot émancipation par les femmes. Et vous ajoutez qu'il y a aussi le facteur pauvreté. Est-ce que vous pouvez développer?
Ok. Bonsoir à tous. Bon, comme j'ai énuméré dans mon commentaire, j'ai développé certains faits qui sont à base des violences faites aux femmes. Bon, quand je prends d'abord le premier, je parle un peu de... Bon, comme on a la télévision impolitesse, c'est-à-dire, voilà, le manque de respect à son homme. Le manque de respect à son homme. Vous savez, aujourd'hui, les femmes ont tendance à avoir des amis de par-ci, par-là. Ces amis-là, les impactent. Elles impactent leur vie de couple avec des causeries vraiment qui ne sont pas bien. Il y a des femmes comme ça, des fois, qui arrivent à dire, c'est pas mon mari, parle moi aussi, je vais parler. Ça, c'est déjà de l'insoumission. Et puis ça envoie déjà encore des histoires. Un homme, dans son lieu de résident, qui n'est pas respecté, selon moi, il devient très, très, très désagréable avec cette manière-là. C'est un premier point de vue. Deuxième point de vue.
Quand vous parliez de l'incompréhension du mot émancipation.
C'est ça. Tu parlais d'une incompréhension du mot émancipation. L'émancipation, on est mal compris en Afrique. L'émancipation est mal compris en Afrique. Aujourd'hui, il y a des femmes aujourd'hui qui sont plus salariées que les hommes. Ça arrive. Elles ont eu la chance d'étudier avec des bons moyens. Les parents et les moyens pour les envoyer jusqu'à bon port, tout bon. Voilà, elles-mêmes, intelligentes, c'est que c'est là, tout ce qui est un bon travail, un bon rendement. Ce qui est découvert comme ça, vous savez, l'argent rend arrogant, mais chez la femme, c'est très grave, hein. Quand une femme a des sous que son homme n'a pas, vraiment, il va bien à la maison, hein, c'est un peu la majorité des femmes selon moi, voilà. Et puis c'est plus, le dernier facteur que j'ai numéré la pauvreté. Vous savez qu'on n'arrive pas, étant un homme, à subvenir à tous les besoins de la